Selon le Centre de transfert d'entreprises du Québec, 24 000 entrepreneurs québécois ont l'intention de passer le flambeau dans la prochaine année. Comment encourager la reprise, soit à l'interne ou par d'autres entrepreneurs, pour assurer la pérennité de ces entreprises? Dans cet épisode de Libre-Échange, on parle de l'importance de favoriser le repreneuriat et des bonnes pratiques pour le faire intelligemment. Sur le terrain, Pascal Gagnon, de l'entreprise Groupe Physio Extra, Richard Quinn et Florence Jean-Jacobs, de Desjardins. Je m'appelle Isabelle Maréchal. Bienvenue à Libre-Échange. Pascal Gagnon, la grande aventure de repreneuriat a commencé pour vous il y a tout juste 25 ans, quand vous êtes passé d'employé à actionnaire. Ça a été un grand changement pour vous.
Oui, un très grand changement qui s'est passé. Puis j'ai commencé à travailler dans une clinique puis à faire tout de suite la gestion jour 1. Donc, commencer une nouvelle clinique, embarquer, puis de fil en aiguille, finalement, embarquer dans le groupe comme actionnaire. Puis après ça, on a avancé et ça a grandi quand même très rapidement. Pour après ça, bien, s'entourer de... Là, on est rendu 12 actionnaires déjà, une belle grande équipe et plusieurs cliniques à travers le Québec là, actuellement.
46 cliniques, oui, de physiothérapie?
De réadaptation en général.
En général, oui. Ouais. Comment est venue cette opportunité de faire partie, en fait, d'une grande aventure de repreneuriat, c'est-à-dire de reprendre des entreprises qui avaient été créées par un autre entrepreneur?
Oui, moi, je suis embarqué. J'étais la deuxième physio embarqué. Alain Racine, qui est notre fondateur, a créé les cliniques, lui, en 97. Puis après ça, ben de fil en aiguille, à un moment donné, il nous a parlé qu'il voulait passer au suivant. Il a préparé sa relève, préparé la relève au niveau d'une saine gouvernance aussi. Puis ce que ça nous a permis de faire, ben finalement, c'est d'avancer puis de dire, ah, on pourrait réellement, à 12, réembarquer. Puis finalement, on a racheté le fondateur aussi il y a quelques années. Puis après ça, ben on a établi tout ça pour les belles bases pour après ça continuer le rêve qu'on avait là 25 ans quand j'ai commencé. Là.
Qui était donc d'avoir votre entreprise?
C'est parti. En fait, moi, c'est d'avoir le maximum d'impact sur la santé des Québécois. Ultimement, c'est ça qui me drive. Est-ce que c'était le côté entrepreneur? Pas tant que ça. Mais c'était la notion d'embarquer puis d'avoir un impact sur plein de monde au Québec. Puis c'est ce qui nous motive à tous les jours pour travailler présentement. Là.
Et vous touchez plusieurs milliers de personnes, d'ailleurs, là, à travers,
oui,
le Québec.
Oui, plus de 50 000 personnes différentes par année actuellement. Puis notre cible, c'est de doubler ça. Donc, 100 000 personnes, justement, qu'on aimerait ça toucher dans 4 ans, là, finalement. Là. C'est ce qu'on vise.
Donc, ça, ouais, veut dire avec combien de cliniques, ça?
Il reste d'en avoir autour de 80, à peu près.
Que vous allez... Donc, il va y avoir du repreneuriat de clinique ou l'acquisition, en fait? C'est un peu votre modèle, finalement.
Exactement. Autant au début...
Croissance par acquisition.
Ouais. Oui, parce qu'au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on commençait vraiment en établissant des nouveaux points de service. À peu près trois quarts des nouvelles cliniques, c'était comme ça. Puis après ça, le quart, c'est des acquisitions. Là, c'est pas mal l'inverse. Je vous dirais que le trois quarts, c'est vraiment des acquisitions. Donc, des cliniques qui nous appellent pour dire, ben, on voudrait embarquer dans le groupe. Et après ça, là, quelques cliniques qu'on commence là, comme ça, parce que c'est difficile de trouver la nouvelle main-d'œuvre. Fait que là, le modèle a changé un petit peu.
Comment se prennent les décisions à 12 actionnaires?
Fait que c'est un défi. Mais ce qu'on a fait, c'est depuis quelques années, on a un conseil d'administration. Donc, les actionnaires vont élire un conseil d'administration. Donc, ils ont trois personnes, trois administrateurs qui sont externes et 6 qui sont de l'interne, des actionnaires. Puis après ça, ben, on y va durant l'année et on rend des comptes aux actionnaires une fois par année, à tous les trimestres aussi. Mais ça nous permet de dissocier vraiment le chapeau d'actionnaire et le chapeau d'administrateur. Donc, la réforme de cette gouvernance-là a été bénéfique pour l'entreprise parce qu'à un moment donné, sinon, c'était difficile de séparer les différents chapeaux.
L'avantage d'être plusieurs, vous disiez, on est 12,
oui,
c'est une prise de décision via un conseil d'administration.
Exact.
Mais c'est aussi une opportunité pour d'autres qui vous regardent, qui cherchent une relève et qui se disent, ah, il y a ce système, ce modèle corporatif, d'actionnariat corporatif.
Oui, fait qu'ils peuvent embarquer dans le holding, finalement, avec nous comme 12. Mais il y a possibilité d'avoir aussi d'être actionnaire de filiale. Souvent, c'est les cliniques sont un petit peu plus excentrées, un peu plus en région aussi. Là, ils vont nous proposer un modèle de dire, ben OK, moi, je vais prendre 10 % 20 % 30 % de la clinique. Puis après ça, ils vont la gérer comme gestionnaire de clinique. Puis après ça, ben nous, on va leur donner un grand support. Fait qu'il y a deux types de modèles, justement, pour accéder, finalement, à l'actionnariat chez nous.
Vous avez parlé de la relève. Comment on travaille sa relève?
C'est un beau défi. Nos directeurs, nos directrices de clinique sont bien en poste, sont bien épaulés par des directeurs, directrices régionales aussi en même temps, qui les coachent, qui les mentorent. Puis dans chacune des cliniques, il y a des directeurs, directrices de clinique adjoints, OK, qui sont là, puis comme des futurs gestionnaires aussi en même temps, qui aussi, on les forme, on les fait avancer, puis on voit nos prochains gestionnaires, finalement, là, là-dedans. Fait qu'on a plusieurs personnes qui sont intéressées et que ça nous fait une pépinière, justement, de futurs gestionnaires. Puis je pense que c'est ça la clé, là, actuellement.
J'allais le dire, puis là, j'ai deux experts en la question. Richard Quinn de oui. Desjardins, vous écoutez Pascal, puis c'est sûr que l'enjeu, puis Florence pourrait sans doute corroborer que le grand enjeu des entreprises aujourd'hui qui arrivent, en fait, plutôt des entrepreneurs qui arrivent presque à une fin de carrière, qui se disent « Où est ma relève? Ah, c'est dommage, j'aurais dû y penser avant. » N'est-ce pas, Richard?
Souvent, la relève est présente, ce sont les employés. Donc, le modèle de Physio Extra est un modèle qui fonctionne super bien. Toutefois, à dos, c'est quand même un bon défi pour l'entente, la vision commune. Mais oui, il faut se préparer d'avance, justement. Il faut en parler avec l'entrepreneur. Il faut se manifester aussi comme relève. C'est beau l'entrepreneur qui réfléchit, mais il faut que la relève se manifeste également pour dire hey, « moi, j'ai de l'intérêt ». Donc, je pense que les deux doivent se parler, doivent arriver à un point d'entente éventuellement.
Florence?
Bien, je rajouterais qu'effectivement, quand il y a une intention de transfert, mais qu'il n'y a pas de repreneur d'identifier, le taux de survie des entreprises baisse de façon importante. Puis ça, il y a des statistiques qui viennent le montrer. Donc, il faut le penser. Puis, il y a des sondages assez récents qui montraient qu'il y avait une majorité de cédants qui avaient l'intention de céder et qui n'avaient pas de plan de relève. Donc ça doit nous préoccuper. Il faut penser à l'avance parce que c'est la pérennité de l'entreprise après ça qui est en jeu.
J'ajouterais ça.
Allez-y, Pascal.
Ben
oui.
Qu'au niveau des acquisitions, ce qu'on fait actuellement, le facteur numéro un, c'est d'avoir un gestionnaire en place, même si c'est pas le cédant. Souvent, ce n'est pas nécessairement le cédant qui, mais il va dire, écoute, j'ai identifié ma relève. Moi, je veux que ce soit cette personne-là qui prenne la relève, puis ça me ferait plaisir, même s'il ne reste pas dans l'actionnariat aussi. Puis après ça, on rencontre cette personne-là avant la transaction. C'est notre priorité d'avoir un gestionnaire ou une gestionnaire en place aussi qui est là. Fait que c'est un modèle ça prend une relève.
Et ce que vous abordez aussi, c'est la notion d'empowerment, ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire donner du pouvoir aussi aux gens, aux employés, aux gens qui sont sur place. Et le fait de leur dire éventuellement, peut-être, tu pourrais être ma relève, c'est une façon de leur donner beaucoup de pouvoir aussi.
Oui, effectivement.
Puis de leur dire, tu peux grossir, croître avec l'entreprise.
Ben, c'est ça, vu que les faire participer à la croissance. Ouais. Là. Autant au niveau de la gestion, autant au niveau de l'actionnariat, autant au niveau de certains projets aussi, en même temps, dans l'entreprise, puis de leur faire... En fait, les faire réaliser, à cause du modèle corporatif qu'on a, c'est que quelqu'un qui est un professionnel, qui veut avoir de l'impact dans tous les réseaux, peut développer un projet. On a un centre d'excellence qu'on a mis en place aussi en même temps pour établir certains standards, puis peut arriver, puis proposer un projet qui va... Après ça, resplendir finalement sur tous les réseaux, puis ça leur donne énormément. En fait, l'engagement augmente beaucoup, beaucoup grâce à ça aussi. Là.
Est-ce qu'on est bon au Québec dans le repreneuriat, c'est-à-dire est-ce qu'il y a assez de gens qui regardent le bassin d'entreprise disponible? Puis je pense que Florence a peut-être des chiffres là-dessus, ou même Richard, il y en a beaucoup là, qui vont être sur le marché.
C'est un nombre quand même important. On parle en 2021, là, 8600 transferts qui ont été effectués. C'est plus que 4% des PME actives au Québec, ça.
Qui ont changé de main.
Ouais. Et ça représente aussi, là, si on regarde l'emploi dans ces entreprises-là, c'est plus que 4% de l'emploi du secteur privé au Québec. Donc, à chaque année, il y a une cohorte importante, puis on a une population de dirigeants qui est vieillissante. Et donc, je pense qu'il faut quand même se préoccuper du fait que ça va s'accélérer. Oui, on est sur la bonne voie, mais je pense qu'on a des mises en garde aussi. Il y a d'autres populations, comme au Japon, où il y a eu une baisse du nombre de PME à cause, justement, d'un manque de repreneurs. Donc, je pense qu'il faut rester vigilant, étant donné l'ampleur du phénomène. Comme vous le disiez, il y en a 6 sur 10 des entrepreneurs, des propriétaires qui ont l'intention, dans les 10 prochaines années, de transférer... qui envisagent de transférer leur entreprise. Donc, c'est vraiment majeur.
Qu'est-ce qui s'en vient? C'est beaucoup.
Ouais, donc,
et est-ce qu'ils ont des plans de relève?
Il y a un sondage en 2022 qui montrait que 60 % de ceux qui avaient l'intention de transférer n'avaient pas de plan de relève. Donc, il faut vraiment que le mot se passe, effectivement, que les gens écoutent les
donc,
conseils.
Et c'est là le travail, entre autres, la mission de Desjardins, c'est de dire, « Oh, je remarque que peut-être tu aurais besoin d'un plan de relève. »
Oui, mais...
Vous faites ça aussi.
Oui, on fait ça. Mais première des choses, en 2021, le repreneuriat est devenu plus important que le démarrage d'entreprise au Québec. Donc, c'est sûr que c'est un créneau qui est en développement. Je pense que la courbe démographique nous apporte vers cette croissance-là dans les prochaines années. Et oui, il faut continuer de sensibiliser les entrepreneurs Faut qu'il y pense tôt. De bâtir une équipe, s'entourer, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Comme chez Physio Extra, c'est le plus bel exemple. De bâtir l'équipe autour du dirigeant cédant qui compte un jour transmettre.
Et donc, vous êtes toujours dans une espèce de modèle où vous vous développez à travers un repreneuriat potentiel.
Oui, exactement. Fait que c'est un repreneuriat qui se fait avec un gestionnaire en place. Puis après ça, bien, on continue à avancer. Puis souvent, bien, c'est un nouveau secteur qui se développe. Puis après ça, grandit. C'est un commerce de proximité, ce qu'on a en adaptation. Donc, les gens, après ça, disent « Oh, OK, ça a l'air super intéressant ce qui se passe dans cette clinique-là. » Puis des fois, ils nous appellent justement pour vendre leur clinique qui est à peut-être 5-10 km de là. Puis après ça, bien, oups, la région grandit un petit peu plus. Fait qu'on essaye de s'étendre comme ça.
Et comment on se partage les revenus dans ce temps-là, quand on est 12 actionnaires, quand on est dans 46 cliniques un peu partout au Québec?
C'est bien structuré. Puis avec le repreneuriat qu'on a fait du fondateur, quand on l'a racheté, ça nous a permis de rééquilibrer un petit peu notre structure aussi, puis dire bon, ben, les pourcentages d'actions, etc., de quelle manière qu'on se repartage ces revenus-là. Mais je vous dirais que présentement, on est beaucoup dans les investissements, puis de continuer à avancer, puis de financer notre croissance.
Puis j'allais vous dire, Pascal, on a tous mal quelque part. Donc, vous aurez des clients jusqu'à temps que...
On n'en manque pas de clients.
Non, exactement. Richard Quinn, vous êtes en charge du transfert d'entreprise chez Desjardins. Vous avez dit tout à l'heure que le modèle qu'avait choisi Gros Physio Extra, c'est un modèle d'avenir, c'est-à-dire passer d'employé à repreneur. C'est ce qu'on souhaitait. Est-ce que c'est effectivement ce qui est le plus garant de réussite, vous diriez, dans une grande idée de repreneuriat?
Absolument. C'est ce qu'on constate depuis quelques années, là, que les employés, quand le transfert est préparé, bien sûr, que les gens sont à leur place, qu'on a le bon profil. Puis l'entreprise est en bonne santé, c'est un gage de succès.
Parce que l'employé connaît plus l'entreprise,
connaît l'entreprise,
est déjà là.
Connaît le secteur d'activité, les clients, les partenaires, l'intégration est beaucoup plus facile. Les employés sont plus tentés de suivre aussi. Donc, c'est vraiment le modèle qui fonctionne le plus. Oui.
Vous connaissiez très bien à l'époque la clinique.
Oui. Puis en fait, dans ce temps-là, la revue diligente est beaucoup moins longue. Okay? On s'entend que justement, la culture, on la connaît, les processus et tout. Puis la confiance qu'on a est énorme.
Et comment on se lance? Il y a les gens qui viennent vous voir, qui disent, ben moi, j'aimerais bien reprendre une entreprise. J'imagine qu'aujourd'hui, les gens vont vous voir. Puis
souvent,
les
employés qui songent à acquérir l'entreprise quand ils ont eu des discussions avec le cédant. Donc, dans sa réflexion, hein, le cédant, ça peut prendre 4-5 ans à vraiment forger son opinion sur ce qu'il veut faire avec son entreprise et quand est-ce qu'il aimerait quitter et quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'il veut léguer finalement. C'est souvent ça. J'ai vu des entrepreneurs laisser de l'argent sur la table pour vendre à ses employés parce que employés ont participé avec lui à faire grandir l'entreprise et l'amener à l'endroit où elle est aujourd'hui. Souvent, on va voir le cédant et le repreneur ensemble. Ils vont venir s'asseoir. Ils vont venir discuter des possibilités, comment faire. Finalement, puis ça tourne souvent, nous, de notre côté, autour du financement pour commencer. C'est quoi les possibilités de financement pour attacher leur projet? Puis là, après ça, les gens peuvent aller travailler sur le plan de transfert comme tel. Les rôles, les responsabilités, le pouvoir et le savoir dans l'entreprise. Donc ça se transmet. Puis ça prend un plan pour ça, puis ça prend quand même un peu de temps.
Ouais. Comment ça s'est passé pour vous, Pascal?
Exactement dans les mêmes eaux. Là, on parle de 4-5 ans. Puis du moment où est-ce que le fondateur est arrivé, puis il a dit, écoute, je veux vous léguer à vous. Puis oui, justement, son discours était, je suis prêt à laisser un petit peu d'argent sur la table parce que je veux que ça soit toutes vous autres qui embarquiez puis qui laissez le leg que je veux faire, c'est telle chose. Fait que ça a pris ce moment-là. Il est arrivé la COVID aussi à travers tout ça. ça a bouleversé un peu le plan. Mais finalement, on est arrivé avec un plan qui se et avec des experts aussi là, de Desjardins en financement, ça a pris justement là, un petit moment pour ficeler tout ça puis répondre aux attentes de tout le monde. Ça a été,
Comment Desjardins vous a accompagné là-dedans?
Bien, on était avec Desjardins Entreprises déjà depuis plusieurs années. Puis après ça, c'est Desjardins Capital qui est venu nous aider pour structurer parce que reprendre le fondateur, bien, c'est un autre type de financement qu'on est allé chercher finalement là, à travers tout ça. Et on est resté justement dans la grande famille Desjardins avec, par rapport au modèle de reprise qu'on a fait.
Bon, on a parlé du plan de transfert. Le cédant a cédé, le repreneur reprend. Là, comment on s'assure que ça continue? Voilà, c'est ça?
Oui, la transition est importante. Ouais. Souvent, ce qu'on va demander aux gens, et on le demande toujours, là, c'est de le documenter. Comment vous allez le faire, le transfert? Dans combien de temps? Comment va se passer le transfert de la gestion? Puis s'il y a des conflits pendant la transition, comment vous allez gérer ça? Moi, c'est des questions que je poserais pour essayer de me forger une idée comment les gens vont faire. Puis j'essaie de les conseiller sur les risques de conflit. les hauts et les bas que les gens vont avoir, parce que c'est ça, le CEDAC est en train de se désengager de son entreprise, qui est en train de laisser son bébé, il a travaillé pendant 40 ans, c'est dur, c'est difficile, et il vit de l'émotion, il fait vivre de l'émotion à la relève. Donc, il met des bâtons dans les roues. C'est des fois, il le fait sans s'en rendre compte qu'il est en train de le faire.
On le voit souvent dans les nouvelles cliniques que le cédant ne reste pas le gestionnaire en place, nécessairement. Puis là, ils ont identifié une relève, c'est parfait, on continue avec la relève. Mais le cédant, on lui demande souvent de rester là entre 2 et 3 ans. Tu sais, je dirais même plus autour de 3 ans pour perpétuer la culture, perpétuer un peu. Puis c'est le nom de cette personne-là aussi dans la région. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que le gestionnaire et l'ancien propriétaire se trouvent en porte-à-faux un petit peu avec nous, qui géreront avec le nouveau gestionnaire. Fait que souvent, les employés vont aller voir l'ancien propriétaire, mais c'est d'établir rapidement c'est quoi le plan de gestion avec le gestionnaire en place.
Qui prend les décisions.
Puis c'est après ça.
Comment on gère l'humain là-dedans? Là,
c'est quoi le rôle dans l'ancien propriétaire aussi? Parce qu'il y a un rôle.
Ça prend combien pour se lancer? Parce que des fois, on veut, hein, comme employé. Je ne sais pas comment c'était, vous, au départ, Pascal, mais...
Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Ça prenait quand même une bonne mise à fond aussi. Pour embarquer, je suis commencé dans une clinique. Puis après ça, tranquillement, une deuxième. Puis embarquer dans le groupe au complet. Puis je suis allé progressivement, là, brique par brique, là, pour embarquer dans le groupe aussi.
Est-ce que vous voyez, vous, Richard?
Ça prend une mise de fond, mais c'est pas nécessairement le montant. C'est la capacité de la personne d'en mettre, de se mettre à risque, de devenir un entrepreneur. Et de montrer aussi aux cédants qu'on est capable aussi d'embarquer en affaires, d'être en affaires.
Faut qu'il y ait un vrai désir.
Faut qu'il y ait un désir.
Et vous mesurez ce désir.
On le mesure par le risque. On le mesure par la prise de risque de la relève. On le mesure aussi par le cédant avec sa balance de prix de vente, par exemple. Comment il croit sa relève, plus il y croit, plus il sera prêt à être souple dans le remboursement de sa balance de prix de vente. Et ça, c'est des signaux forts. Ça vient confirmer ce qu'on lit chez les personnes en avant de nous.
Comment on gère l'incertitude que ça peut créer, ça, dans une entreprise qui va être cédée pour les employés?
Quand nous, on débute avec une nouvelle clinique, on a des gens en place qu'on a connus aussi dans la revue Diligence. Évidemment, on peut pas rencontrer tout le monde aussi de l'équipe avant de décider si on embarque ou pas. Souvent, c'est les éléments clés, les personnes clés qui sont là, qui sont rencontrées. Puis après ça, le plan de com au début est hyper important. De quelle manière que... Puis là, on a développé un peu notre méthode. C'est-à-dire que les cédants vont vraiment discuter seuls avec leur équipe, aussi en même temps avec le gestionnaire ou la gestionnaire en place, expliquer un petit peu la suite. Puis après ça, un coup, qu'ils ont expliqué leurs raisons, pourquoi ils nous ont choisis aussi. Là, après ça, on entre dans la même rencontre. Puis là, on parle du plan qu'on a commun avec le repreneur, avec le gestionnaire qui est là. Puis là, ils voient une espèce de transition qui se passe.
C'est ça.
Puis on les rassure tout de suite.
C'est important de rassurer.
Ouais,
exact. Au début, là, envelopper, rassurer. Je pense que c'est c'est un gage de succès.
Accompagner,
c'est ça. Oui.
Ouais. Florence?
Je pense que Richard l'a mentionné tantôt, c'est très intéressant. On est à un point tournant où il y a maintenant eu plus de transferts en 2021 que de démarrage de nouvelles entreprises. Mmh. Les deux sont essentiels à la vitalité, mais clairement, pour pérenniser les expertises, le savoir-faire ici, pour pas perdre les capacités productives qui ont pris des décennies à bâtir. Donc, je pense que les deux impliquent un risque, mais en fait, c'est assez attrayant de dire, ben quand tu reprends quelque chose qui est établi, qui a fait l'épreuve du temps, il y a quand même, puis tout le monde gagne effectivement d'un point de vue économique de garder ces PME essentielles au tissu économique au Québec.
Est-ce que ça prend des compétences particulières pour être entrepreneur?
Absolument, moi oui. Compétences de gestion pour commencer, savoir s'entourer, la communication, aller chercher l'engagement des gens, je pense que ça prend ça. Dans un premier temps, ça prend un certain leadership.
C'est des qualités de leader que vous nommez. C'est dur de
mettre des mots. Un entrepreneur, il va flairer, il va sentir les bonnes affaires, le bon filon, la bonne direction à prendre, puis il va prendre la décision. Puis après ça, de notre point de vue, ça prend la connaissance de l'industrie le plus possible. Parce que chaque industrie a ses particularités. Puis je le dis souvent, un transfert d'entreprise, ça demeure un électrochoc. Hein? On donne un bon coup à l'entreprise, là. On change l'équipe de direction. Souvent, on change un peu sa direction, sa raison d'être. Souvent, va évoluer. On va endetter cette entreprise-là pour payer le fondateur.
Ouais.
Donc ça, c'est de la dette qui devient un peu improductive, qu'elle n'est pas pour financer de la croissance. Ça crée de la pression sur l'entreprise. Donc, ça prend des bons gestionnaires pour faire plus d'argent qu'elle n'en faisait avant, la faire croître pour qu'elle puisse se pérenniser là, pour plusieurs années, finalement.
Florence, quel est l'impact des entreprises qui font l'objet d'un repreneuriat au Québec sur l'économie du Québec?
Ben, je dirais, de façon plus globale, c'est trois choses. C'est des emplois, c'est du savoir-faire et c'est aussi de la vitalité économique pour plusieurs régions. Donc, il faut penser aussi à pas juste les grands centres, mais ce sont des ancrages dans plusieurs régions. On a vraiment besoin d'avoir une relève en construction, dans le secteur manufacturier aussi, où les transferts s'accélèrent très rapidement, transport et entreposage. Donc, c'est vraiment tout le tissu industriel qui est touché et il faut s'assurer de ne pas perdre l'expertise. Moi, c'est surtout ça et éventuellement les emplois. Parce que s'il y a fermeture ou peut-être acquisition d'une entreprise qui n'est pas québécoise, ben c'est pas garanti que le centre de production va rester ici, le siège social, même la recherche, le développement. Donc, tout ça, c'est une question de pérennité de nos acquis ici au Québec.
Je pense que c'est une raison majeure, ça, d'ailleurs, parce qu'on le reconnaît là, depuis les dernières années, je dirais, là, on présente plus le repreneuriat comme étant une opportunité. Et là, vous venez de le dire très bien, Florence, c'est-à-dire que si ce ne sont pas des entrepreneurs québécois qui reprennent, ça va être quelqu'un qui vient de l'extérieur, parce qu'il y a une période clé en ce moment en Florence.
C'est ça, on est à un point tournant, puis on le sait, la population d'entrepreneurs est très vieillissante. Là. Il faut penser à changer de main, puis pas dans deux ans, là, maintenant. Puis, faut le rappeler, au Québec, on a un défi de productivité. Nos capacités productives, là, elles sont clés. On peut pas vraiment se permettre d'en perdre. Là. Des entreprises manufacturières, des entreprises de construction, de transport et autres, ils sont vraiment essentiels pour préserver nos conditions de vie. Donc, on dépend de ce qu'on est capable de produire ici. Si on perd des morceaux clés, qui nous permettent d'avoir des revenus, des emplois de qualité, là, pas n'importe quel emploi, bien là, c'est tout le monde qui est perdant là, dans le reste de l'économie.
Tout à l'heure, vous avez parlé de vitalité régionale aussi, comme quoi le repreneuriat pouvait être un pôle aussi qui permettait de conserver des emplois, d'en créer d'autres aussi. Jusqu'à quel point vous avez des statistiques pour nous là-dessus, peut-être?
Bien, effectivement, en ce moment, là où il y a le plus de transferts, ça reste à Montréal. Là, c'est fonction de la population, suivi de Québec. Je pense qu'il ne faut pas oublier que, surtout dans des régions moins populeuses, souvent, une entreprise, ça joue un rôle majeur. Plein d'autres en dépendent. Ils ont des sous-traitants. Donc, de garder une entreprise ou non, ça peut vraiment changer le portrait d'un village, d'une ville de plus petite envergure. Donc, je pense qu'il faut garder en tête que c'est vraiment à travers le Québec et que si on veut continuer à avoir des emplois de qualité en région, des expertises en région, puis pas vider nos territoires
Exactement.
De cette vitalité, c'est absolument important d'être présent.
Et une diversité de secteurs aussi.
Exactement.
Et de la mono-industrie dans telle région, la région dépend de cette industrie-là,
par
c'est terrible
exemple.
Quand
ça
l'industrie
demeure
ferme.
Risque, un risque important.
Oui. Puis je pense qu'on a cet enjeu-là en tout cas dans beaucoup de régions québécoises.
Dans les intentions de transfert, elles sont très élevées en agriculture et foresterie. Des régions ressources qui vont dépendre de ce secteur-là, ben il faut penser à l'avance parce que ça, c'est aussi clé pour toute la population. Là, c'est les comment on se nourrit, il y a aussi l'autonomie alimentaire. Donc, c'est vraiment dans tous les secteurs d'activité. Puis, on n'a même pas parlé du commerce de détail. C'est très fréquent aussi, l'hébergement, la restauration. Donc, pensez à tous les petits commerces que vous voyez dans la rue. Si l'entrepreneur ou le dirigeant, la dirigeante a 55 ans ou plus, bien là, dans les 10 prochaines années, ça change.
Et ça, toute la notion de courbe démographique qui fait que bientôt, là, il va y avoir des gens... beaucoup plus âgés, moins de jeunes.
Et alors, il va falloir produire suffisamment pour aussi payer les services à une population vieillissante.
Tant et
mieux.
Les retraites, des gens
les
aussi.
Les retraites. Et là, on a besoin de soins de santé et on va avoir des gens qui vont vivre de plus en plus vieux. Donc, ça revient à comment on peut produire davantage avec moins de gens. Donc, ça, c'est un premier défi économique, celui d'augmenter notre productivité et effectivement de ne pas perdre nos capacités productives en s'assurant de pérenniser les entreprises ici.
Est-ce que vous estimez que les jeunes au Québec ont assez cette fibre entrepreneuriale pour être la prochaine relève de repreneurs?
On a regardé la proportion des 30 ans et moins repreneurs, puis elle a légèrement diminué dans les dernières années. C'est à peu près 5 % là, de 30 ans et moins qui est impliqué dans une transaction de transfert, mais ça peut changer. Il y a plein de groupes qui sont pas à la juste proportion qu'ils ont dans la population, qui sont des talents qu'il faut aller chercher.
Est-ce qu'on a des chiffres sur les nouveaux arrivants, les Néo-Québécois? Sont-ils des entrepreneurs? Ont-ils ce désir de reprendre des entreprises québécoises?
C'est intéressant parce que, de façon habituelle, leur taux d'intention d'entreprendre est plus élevé. Ils ont souvent une fibre entrepreneuriale. Il y a eu un peu de changement avec les dernières années où il y avait une pénurie de main-d'œuvre dans tellement d'industries que là, c'était facile quand même de trouver un emploi versus « Ah, ben là, j'ai pas d'emploi, je veux démarrer mon entreprise ». Mais de façon générale, les taux d'intention sont plus élevés chez les personnes issues de l'immigration. Et là encore, ils sont sous-représentés probablement dans le bassin de repreneurs. Et il faut tabler sur tous ces talents-là, effectivement, qui ont souvent de l'expertise dans leur pays et qui peuvent amener des nouvelles façons de faire et souvent même des liens avec d'autres pays. Donc, il y a vraiment un potentiel aussi à aller chercher.
Et c'est là où c'est important d'avoir des mesures pour reconnaître les compétences, hein? Je reviens aux jeunes. Peut-être se mobiliser plus pour les jeunes qui auraient envie de reprendre des entreprises, Richard? Est-ce qu'il faudrait que le milieu financier se mobilise plus?
Oui, il faut accélérer ce mouvement-là parce qu'on en a besoin. La courbe est en train de s'installer. Donc, il faut que des jeunes s'intéressent, il faut les intéresser, il faut les intégrer dans les entreprises, les faire grandir à l'intérieur pour qu'ils deviennent des relèves d'entreprise de l'intérieur. Parce que moi, je crois encore à ce modèle-là pour moi, est celui qui a le plus de succès. Donc, pour ça, ça prend du temps. C'est souvent une denrée qu'on n'a pas, mais dans ce domaine-là, 4-5 ans, ça passe vite, finalement. Ouais.
Aussi, tu sais, on parlait de risque. Les pouvoirs publics ont un rôle pour diminuer le risque. Là, c'est quand même un risque important de se lancer en affaires ou de reprendre. Puis je pense qu'il y en a des capitaux disponibles. Il y en a aussi des fonds pour aider les transferts d'entreprises qui ont comme effet de un peu dérisquer ou en tout cas rendre ça attrayant pour quelqu'un de jeune qui a peut-être pas les mêmes capacités financières de se lancer là-dedans. Et donc, il y a plein de programmes où il y a beaucoup de dépenses admissibles qui sont remboursés. Donc, je pense que de s'informer aussi de ce qui est disponible.
Ouais. Est-ce qu'il y a assez de programmes en ce moment?
J'ai pas fait une analyse exhaustive, mais je sais qu'il y a le Centre de transfert d'entreprise du Québec.
Oui,
je pense à des programmes.
Il y a certains programmes avec eux. Par exemple, les SADC, CLD, par exemple, ont différents programmes. Mais souvent, ils sont limités jusqu'à 40 ans. Donc, la période de 30-40 ans, là, ils sont assez favorisés du côté des programmes. Ils sont là, c'est pas tout le monde qui les utilise. Donc, il y a des façons.
Faudrait ouvrir, finalement.
Ouais, faut ouvrir. Ouais, faut ouvrir.
Faut ouvrir aux bonnes idées, puis aux bonnes personnes, aux bons endroits. Je retiens ça. Hey, merci beaucoup. Merci, Florence. Merci beaucoup, Richard. Merci, Pascal.
Merci beaucoup.
Longue vie à votre groupe, vraiment. Et que ça donne envie à d'autres d'embarquer dans cette grande aventure de repreneuriat. Libre-échange est une présentation de Desjardins Entreprises. Je m'appelle Isabelle Maréchal. Je me suis entretenue avec Pascal Gagnon, président-directeur général de Groupe Physio Extra, Richard Quinn, directeur principal transfert d'entreprise chez Desjardins, et Florence Jean-Jacobs, économiste principale chez Desjardins. Suivez-nous sur votre application de balado préférée et sur la chaîne YouTube de Desjardins. Thank you.